Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans votre espace de discussion, nous nous intéressons à la réalité des enfants en situation de handicap en Côte d'Ivoire. D'abord, qui sont-ils? Quelles sont leurs difficultés? Quelle prise en charge de leur handicap? Comment les inclure pour leur éviter parfois le rejet, la stigmatisation ou même la négligence? Autant de questions qui, bien sûr, seront abordées durant ce temps d'antenne qui nous est imparti. Pour nous aider à éclairer la lanterne sur le sujet, Ndia Nikaise, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes assistant de programme Enfants handicapés. Par ailleurs, responsable du Centre d'éveil et de stimulation des enfants handicapés CESE, géré par l'ONG DDECI.
Exact.
Qui est Dignité et Droit pour les enfants de Côte d'Ivoire.
Très bien.
D'accord. Également sur le plateau, la présidente de la fondation « Dis-moi qui tu es », Marie-Paul Niali de Almeida. C'est ça. Bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes également sur le plateau, hein, en tant que parent, vous pourrez nous donner votre témoignage en cours de discussion.
Bien sûr.
Et nous serons au téléphone avec une spécialiste, Virginie Cacoutier, elle est ergothérapeute.
Sujet de discussion.
Bienvenue à tous ceux qui viennent à l'instant de nous prendre en marche. Aujourd'hui, notre espace de discussion est axé sur la réalité des enfants en situation de handicap en Côte d'Ivoire. Merci, chers invités, d'avoir répondu présent à notre invitation. On va commencer par une brève présentation de vos structures. Marie-Paul Niali de Almeida, qui est la présidente de la fondation « Dis-moi ». Qui tu es?
C'est ça.
Généralement, on a l'habitude de dire 10 mois, mais là, c'est 10 mois.
Non, 10.
Pourquoi?
Parce que 10, les handicaps invisibles, dyspraxie, dyslexie, dyspraxie, bon, tout ce que vous avez comme 10. Et moi qui tu es, 10 mois, c'est comme si, à la réalité, est-ce que chacun se connaît réellement avant d'avoir des préjugés par rapport à d'autres personnes? C'est un peu dans ce axe-là. Donc, la fondation Dis-moi qui tu es a été fondée en 2022. L'idée de plusieurs parents, hein, parents d'enfants en situation de handicap et de parents d'enfants qui ne sont pas en situation de handicap. Nous avons remarqué qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. On a essayé de se mettre, nous nous sommes mis ensemble, hein, nous avons organisé des conférences et nous continuons de le faire une fois par mois, des conférences pour sensibiliser les parents, sensibiliser les spécialistes, vraiment sensibiliser l'opinion publique sur ce qui se passe parce que c'est quand même grave, faut dire que c'est grave.
D'accord, on aura le temps de dérouler tout à l'heure. Ndia Nikaise.
Je représente l'ONG Dignité Droit pour les enfants en Côte d'Ivoire, dirigée par Madame Emilienne Koulibaly-Zouzoua. Faut dire que l'ONG Dignité Droit pour les enfants en Côte d'Ivoire a été créée en décembre 2011 et Dignité Droit pour les enfants en Côte d'Ivoire a pris la relève des actions et projets du BCE, Bureau International Cato de l'Enfance. Voilà. Donc l'ONG DDCI a différents programmes, dont le programme Enfants handicapés dont nous parlons. Faut dire que le programme Enfants handicapés a vu le jour en 1995. Voilà. Et c'est vu renforcé par la mise en place de la création de centres d'éveil et de stimulation des enfants handicapés.
Donc vous êtes le responsable.
Donc je suis le responsable. En 1997, le CESE a vu le jour. Voilà. Mm-hmm. Et là, nous sommes situés à Yopougon-Toit-Rouge, entre le 19e arrondissement et le collège Ségui.
D'accord, merci pour les précisions. Alors, Ndia Nikaise, on va rester avec vous. Qui appelle-t-on un enfant en situation de handicap?
De manière générale, des enfants en situation de handicap, il y en a différents types d'handicap d'abord, il faut partir par de là. Il y a le handicap physique, le handicap sensoriel et le handicap mental ou intellectuel. Voilà. Donc, ces enfants handicapés physiques, cela est dû un peu à des maladies ou à des causes prénatales, périnatales ou anténatales. Voilà. Et puis, l'handicap intellectuel, dont nous sommes un peu spécialisés par rapport au CESE, c'est un enfant, en fait, qui n'arrive pas à apprendre comme les autres. Dû à un problème à la couche avant la naissance ou pendant ou après la naissance. Voilà. Après la naissance, il y a ce qu'on appelle les séquelles de méningite, le neuropalu, tout ça qui peut créer, voilà, qui peut endommager le cerveau. Et puis le cerveau n'arrive pas à fonctionner comme les autres enfants, et donc l'enfant apprend lentement. Donc du coup, il est qualifié d'handicap intellectuel. Mais il faut dire que c'est un peu un générique, le handicap intellectuel. Parce que parmi l'handicap intellectuel, la différence d'handicap intellectuel. Bon, je peux citer par exemple la trisomie 21, l'autisme et les différents 10. Voilà, et puis bon, il y en a tout au long de l'émission, on pourra
mieux en parler. Nous avons au bout du fil Virginie Cacoutier. Bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes ergothérapeute.
Oui.
C'est un terme qu'on n'entend pas très très souvent sous nos cieux. Alors déjà, on va chercher à dire qui est l'ergothérapeute avant d'aller plus loin.
D'accord. L'ergothérapie, c'est un métier paramédical et ça fait l'ergothérapeute. Donc, nous travaillons avec des enfants, des adultes, des personnes âgées en situation d'handicap. Quand je dis handicap, je mets handicap entre guillemets. Et nous travaillons beaucoup par prescription médicale. Et je donne un exemple. Un pédopsychiatre peut avoir affaire à un enfant autiste. Et il va faire son bilan et il va appeler l'ergothérapeute pour l'aider aussi dans ce bilan, pour voir qu'est-ce qui ne va pas chez cet enfant, c'est-à-dire au niveau de son environnement, de sa personne lui-même et aussi au niveau de l'école. Donc l'ergothérapeute va apporter des aménagements pour aider l'enfant dans ce qu'il vit, à cause du handicap qu'il vit. Donc c'est un peu comme ça que l'ergothérapeute travaille.
Spécifiquement, parlant d'enfants en situation de handicap, quel est votre rôle auprès d'eux?
Mon rôle, par exemple, auprès d'eux, je ne vais pas avoir affaire à un enfant 10, par exemple. C'est-à-dire que l'enfant a des problèmes au niveau du calcul, au niveau de l'orthographe, au niveau de la lecture, tout ça. Donc moi, je vais envoyer des aménagements pour aider cet enfant. Par exemple, un enfant qui n'arrive pas, par exemple, à la lecture, qui n'arrive pas à lire, parce que c'est un peu bon, les problèmes au niveau de la lecture. Donc moi, je vais amener des aménagements. Je vais l'aider autrement à pouvoir entrer dans la lecture. Je vais parler aussi, par exemple, à son instituteur ou à son enseignant. Peut-être ne pas parler trop vite, parce que l'enfant ne comprend pas. Si on parle trop vite, l'enfant ne peut pas comprendre. Passer, par exemple, par des images. Donc, c'est un peu comme ça que l'ego travaille. La même que des aménagements pour aider l'enfant. Un enfant autiste, par exemple, il ne comprend pas son environnement. Il a de la difficulté par rapport au traitement d'informations. C'est un peu ça. Donc, l'ergothérapeute va venir mettre des structures en place pour aider l'enfant dans son environnement, pour aider aussi les parents, aider aussi l'enseignant, pour qu'on comprenne qu'est-ce que l'enfant vit, pour enlever plus le stress, parce que quand il rentre en crise, c'est difficile pour l'enfant. Parce qu'il n'a pas compris ce qu'on lui demande, c'est pour ça qu'il rentre en crise. Vous comprenez un peu? Donc, l'ergothérapeute va venir avec des aménagements pour aider cet enfant-là à comprendre son environnement. Et à comprendre aussi les apprentissages qu'il est en train de faire au niveau de l'école, même à la maison. Quand je dis apprentissage, ça peut être la propriété qui ne comprend pas comment se laver, comment manger. Bon, c'est tout ça au niveau de en gros, dans son autonomie globale.
D'accord.
Donc, on va aider, l'ego va venir aider cet enfant-là, sa famille, l'école, tout ça, pour l'aider à comprendre son environnement.
Je pense qu'on a une vue quand même globale de votre spécialité et de ce que vous faites auprès des enfants et de leurs parents. Quelle est la réalité, concernant les enfants en situation de handicap en Côte d'Ivoire, pour vous qui les suivez?
Bon, en général, il y a beaucoup de problèmes. Parce que le soin commence d'abord, c'est la maman qui va savoir que peut-être que mon enfant a un problème. Parce que c'est elle qui est au quotidien avec l'enfant. Moi, mon enfant vient de naître. Je me rends compte que peut-être qu'il ne sourit pas, il ne fait pas de gestes, il ne me regarde pas. Quand je fais un geste, il ne me regarde pas. Donc, au niveau du développement de l'enfant, il y a un problème. Comme je dis, toutes les mamans doivent savoir le développement global de chaque enfant. Comment l'enfant se développe, comment les jalons sont placés au niveau de l'enfant, au niveau du développement. Les parents doivent pouvoir savoir. C'est important pour eux-mêmes. Parce que j'ai un enfant de 2 ans qui n'a pas encore dit un mot, je dois quand même un peu m'inquiéter. Même à 1 an, on se dit au plus tard 12 mois, il doit pouvoir dire papa, maman, tout ça au moins. Même à 6 mois, il doit seulement faire le babillage. Comme on n'entend pas bien, mais les bababa, les bobobo, un peu, on doit pouvoir entendre. Mais si tout ça, on n'entend rien, maman doit pouvoir quand même s'inquiéter un peu. Elle doit peut-être voir le pédiatre. Le pédiatre aussi doit dire, bon, peut-être va dire non, attends un peu, c'est pas important, parce que attends un peu peut-être à 1 an pour que l'enfant va voir tout ça. Mais déjà, un enfant qui parle de babillage, il va pouvoir s'inquiéter. Donc, déjà, aller vers les spécialistes.
D'accord. Alors, vous dites déjà aller vers les spécialistes. Bon, c'est vrai que vous devez être très, très occupé en ce moment. On va juste vous poser la dernière question, hein, histoire de revenir sur le plateau. Vous dites aller vers les spécialistes, mais est-ce que aller vers les spécialistes, ça n'a pas un coût?
Oui, ça a un coût. Ça a un coût quand même.
Abordable ou pas?
Ici, l'État ne prend pas en compte. L'État ne prend pas en compte les spécialistes. Peut-être qu'il y a quelques assurances qui prennent parce que la personne travaille. Or, par exemple, dans nos pays développés, par exemple au Canada, que ce soit l'ergothérapeute, que ce soit le psychologue, que ce soit l'orthophoniste, tout ça a déjà pris en compte. La maman ne paye pas 500. Elle est soutenue parce qu'elle souffre déjà avec l'enfant.
Donc, c'est un
donc,
peu...
Donc, l'État prend tout ça en compte pour pouvoir aider la personne qui va aller vers les spécialistes.
C'est un peu un cri de cœur hein, que vous lancez aussi.
Oui, c'est aussi. Un cri de cœur. Moi, je me dis, au niveau du gouvernement, il faut faire un recensement, voir un peu ces enfants qui sont en difficulté et puis pouvoir soutenir ces parents-là.
D'accord. Je pense qu'au niveau des chiffres, on pourra venir avec vous, Ndia Nikes, pour nous éclairer sur le sujet. Alors, Virginie Kakoutier, un mot de fin.
Moi, ce que je veux dire qu'à Abidjan, les parents sont quand même assez délaissés. Mais ils sont des parents quand même assez responsables qui veut comprendre ce que l'enfant vit, tout ça. Donc, je les soutiens. C'est pour ça que je suis rentrée un peu dans des fondations pour pouvoir aider, même si je si c'est pas rémunéré.
À titre bénévole.
Vous connaissez ce que je vais dire, mais on a besoin de soutenir. Parce que c'est nouveau aussi, il faut comprendre que c'est nouveau. C'est nouveau pour l'État, tout ça, de voir mettre toutes ces structures en place pour pouvoir aider ces enfants. C'est vrai qu'on a nos éducateurs spécialisés qui sont là, mais ils ont besoin aussi d'aide aussi. Pour tous ces gens, parce qu'ils ont des enfants au quotidien. Or, l'orthophoniste, l'ergothérapeute, ce sont eux qui vont faire le plan pour l'enfant. Et puis maintenant, l'éducateur spécialisé va mettre ça en place. Parce qu'il a l'enfant au quotidien, bien l'enseignant, l'enfant au quotidien, tout ça.
Donc, d'accord. Tout ça. D'accord. En tout cas,
mais
merci.
Les parents, quand même, sont assez forts, ils sont assez quand même responsables. Moi, je les soutiens dans ce qu'ils doivent faire. C'est un peu ça.
D'accord, merci beaucoup.
Et la formation aussi, il y a quelque chose aussi à dire.
Allez-y rapidement.
La formation des parents aussi, c'est très important. Il faut que les parents sachent aussi qu'est-ce que c'est que le développement d'un enfant. Le développement, il y a le développement moteur, il y a le développement cognitif, il y a le développement de la motricité fine, il y a tout ça que les parents aussi doivent pouvoir savoir. Ça, c'est le B.A.B.A. un peu. Ça aide beaucoup.
D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Je pense que les différentes structures sur le plateau, je pense que vous menez des actions, bien sûr, dans ce sens-là, de sensibiliser les parents pour mieux encadrer leurs enfants. Virginie Kakoutier, merci beaucoup pour votre intervention. Et rappelons que vous êtes ergothérapeute.
Merci.
Retour sur le plateau et tout de suite avec vous, Ndia Nikes. Vous êtes mieux placée pour nous parler des chiffres en ce qui concerne les enfants en situation de handicap en Côte d'Ivoire.
Au niveau des chiffres des enfants handicapés, il faut dire que nous n'avons pas vraiment des chiffres bien précis. Le dernier recensement, le recensement qui a pris en compte les enfants en situation de handicap, c'était celui de 2014. Là, on parlait de 453 enfants en situation de handicap. L'Institut national statistique disait que les enfants à l'âge d'aller à l'école étaient autour de 29% de cet effectif-là. Voilà. Donc, mais pour le dernier recensement de 2021, il n'y a pas vraiment eu de chiffres qui ont été abordés, qui ont été pris. Donc, les chiffres sont un peu... bon, chacun prend les chiffres un peu là où il peut prendre, mais ce n'est pas vraiment officiel.
Ce n'est pas les chiffres qui sont recoupés.
Voilà.
D'accord. Alors, quelle est la réalité, justement, des enfants en situation de handicap en Côte d'Ivoire? Je sais qu'on a plusieurs volets, en tout cas, à aborder concernant cette réalité, mais déjà avec vous, Marie-Paul Niali de Almeida, qui, rappelons-le, est la présidente de la Fondation « Dis-moi qui tu es ».
C'est ça. Les réalités que les enfants rencontrent sur le terrain. Il y a tellement de réalités qui font mal au cœur que les enfants rencontrent sur le terrain. Il y a la discrimination, il y a le manque d'accessibilité à l'environnement, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas souvent droit au transport, ils ne peuvent pas prendre les transports, ils ne peuvent pas aller à l'école. Il y a un manque de ressources financières. Parce que, comme elle vous expliquait, Mme Kakoutier, c'est des soins qui coûtent excessivement cher. Pour avoir une séance à 10 000, l'enfant peut faire 3, 4 séances dans la semaine. Vous voyez un peu le quota. Là, on ne vous parle que d'une séance d'un spécialiste. C'est un peu cher. pour les parents. Et ça,
alors la prise en charge est pluridisciplinaire.
Elle est vraiment pluridisciplinaire. Pour que l'enfant puisse avancer, c'est toute une équipe qui doit l'accompagner. C'est un cadre, c'est des gens, c'est des éducateurs spécialisés, c'est des orthophonistes. C'est vraiment, comme vous le dites là, c'est pluridisciplinaire. Il y a plein de choses. Et ce qui fait le plus mal, moi je pense, c'est la discrimination. C'est comment les autres les voient, c'est comment les gens les voient, c'est comment les gens jugent rapidement les parents, les enfants, ça fait mal.
Alors, on reste avec vous justement. On rappelle que vous êtes parent d'enfants vivant avec un handicap. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Quelle est votre histoire déjà?
Ouh là là.
De façon assez brève.
Si, on va aller, c'est vraiment une longue histoire et tout. C'est une histoire remplie d'empathie. Écoutez, c'est comme elle l'expliquait, hein, quand on est maman, tu viens d'accoucher, toute heureuse, toute euphorique, l'enfant évolue, son développement est un peu bizarre, mais bon, on est des mamans, on prie, on se dit Dieu fera, il y aura un miracle, on avance et l'école commence. Et la réalité commence. C'est comme ça que j'inscris mon enfant à l'école. Et le mois qui suit, on me rembourse mon argent. Hein. On me dit, écoutez, madame, on ne peut pas. Je dis mon père.
De façon directe.
De façon directe. Et vous savez, on a évolué, hein, les sociétés ont évolué. Aujourd'hui, on est dans un système où vous êtes seul avec votre enfant à la maison, il ne côtoie pas vraiment les gens dehors. Donc vous comprenez votre enfant, les gens ne le comprennent pas, mais vous ne vous rendez pas compte, puisqu'il ne côtoie pas vraiment les gens dehors. Donc vous dites, mais mon enfant parle, mon enfant, quand il veut quelque chose, il vient vers moi, mais c'est toi qui comprends le langage de ton enfant. Les autres ne le comprennent pas. Et quand il est dehors, il ne veut pas socialiser. Donc on me dit, récupérez votre... je ne sais pas comment faire. Si l'école ne le veut pas, qu'est-ce que je fais? J'ai gardé à la maison, j'ai tourné un peu partout. Je suis même allée dans un centre spécialisé, privé. Ils m'ont dit, écoute, ton fils, il n'a pas ce que les autres enfants ont ici, donc il ne peut pas être ici. J'ai dit, bon, finalement, où j'emmène mon enfant? S'il ne peut pas être là, il est où? Donc, j'ai gardé à la maison. C'est comme ça qu'un ami est venu me voir, il me dit, mais on est en novembre, il fait quoi à la maison? J'ai dit, écoute, je ne sais plus où l'envoyer. On me dit qu'on ne veut pas. Il m'a donné des tips. Il m'a dit, bon, il peut aller dans tel système, ils vont le prendre et tout va. Et c'est ce qui s'est passé. Il est allé là-bas, tout s'est bien passé. Et là-bas, je me suis rendu compte qu'il y avait des mesures pour accompagner ces enfants-là. C'est dans le même pays, c'est où on est, mais c'est un autre système. Mais c'est onéreux. Et ceux qui n'ont pas les ressources, ils font comment pour faire? Et avec ce que j'ai vécu, j'ai essayé d'inciter plein de gens, hein, d'inciter les gens qui sont avec moi, pour voir, parce que faut pas s'asseoir pour dire que ouais je peux payer, et ceux qui peuvent pas payer. C'est comme ça que j'ai rencontré les gens de Cézé. Je suis allée à Cézé, j'ai organisé même un arbre de Noël là-bas en 2020, et tout le monde a été touché, parce que ce sont des enfants formidables. Les enfants de Cézé sont formidables, ils ont fait même les paralympiques, ils sont venus avec plein de médailles, mais personne n'en parle. Ils font des choses époustouflantes, et on se rend compte. En fait, je vous explique l'histoire de mon fils, mais je vous dis que ça fait 13 ans. Et à l'époque, en 2010, il n'y avait pas de spécialiste même d'ailleurs. Et jusqu'à aujourd'hui, on a 5 psychomotriciens, même qui sont privés, mais ils sont 5. Et les orthophonistes, ils sont 14. Et ils sont privés. Et c'est vraiment, c'est-à-dire que, et maintenant, on est parti juste parce qu'il y a un manque. Donc le privé a trouvé un pan juteux. Des parents en détresse qui sont prêts à dépenser tout leur argent, à se vider. Mais j'ai des témoignages de parents qui, c'est abominable, c'est éprouvant. Et dans ça, on dit, non mais attendez pas, ceux sur la planète, on dit, il y a le public. Comment ils font, les autres parents? Comment ils font? J'ai écouté, c'est vraiment, j'étais dans ma bulle, dans mon système où tu payes. Quand j'ai rencontré les gens du CESE, quand ils m'ont raconté leur expérience, des parents qui déposent les enfants devant l'école et qui fuient, parce qu'ils ne peuvent pas payer la scolarité. Je me dis, mais on fait ça comment en fait? À quel moment j'abandonne mon enfant? Mais la dame, elle doit aller travailler, elle doit aller au marché pour vendre. Elle va pas mettre son enfant au dos pour vendre. Elle est obligée de l'envoyer quelque part, mais elle peut même pas payer quelque part là. Donc elle est obligée de déposer l'enfant et puis un coup, elle s'en va. Mais comment on vit comme ça? Et ça m'a retourné. On en a parlé en interne avec Jésus. Bon, il faut qu'on essaie de faire plein de choses pour que les gens puissent entendre et voir comment aider les familles, aider les enfants. Parce que il y a le soutien aussi des parents. Parce que quand on vous donne le diagnostic, là, on ne sait pas que vous êtes parent. Hein. Vous êtes juste là pour faire quelque chose. Votre enfant a telle chose. On ne vous dit pas comment ça fonctionne, on ne vous dit rien. Mais on vous dit, allez-y, débrouillez-vous. Donc le parent, comment il prend la situation? Est-ce qu'il va bien dans sa tête? Est-ce que tout... Mais les parents sont dérangés. On n'accepte pas. On fait des dénis. Parce qu'on est humain, mais on nous reproche ça. Tous les spécialistes, quand on va voir les spécialistes, ouais, les parents font des dénis.
on fait des dénis parce qu'on est parents, parce qu'on n'avait pas été préparé pour ça. Il n'y a pas d'école pour apprendre à accompagner un enfant en situation de handicap. Donc, on fait comment?
Et vous avez parlé du regard des autres.
Oui, parce que vous n'avez pas l'enfant parfait. Donc, les autres vous regardent. D'autres ne veulent pas être avec votre enfant. D'autres pensent que c'est contagieux. D'autres se disent que... pourquoi tu... Moi, j'ai fait... quelques émissions, j'ai eu des retours d'amis qui m'ont dit « Mais pourquoi tu vas parler de ta situation? T'as pas honte? Tu penses pas que les gens vont te regarder bizarrement ?» Je dis non. Je dis non. C'est une thérapie pour moi aussi. Ça m'aide et ça m'a aidé. Ça fait qu'aujourd'hui, je peux parler à d'autres parents, je peux les motiver, les soutenir. Mais ils sont toujours à me dire « Ah, mais comment tu fais ?» Je dis « Mais vous savez, nous, on n'a pas de thérapie en tant que parents. Donc la seule thérapie, c'est de parler. Si on arrive à extérioriser... et à aider encore d'autres personnes, on se sent mieux. Aujourd'hui, je peux dire que je suis guérie. Et ça va, j'avance bien, je suis bien dans ma tête. Je peux voir un enfant aujourd'hui, je peux accompagner des parents, je peux leur parler de mon expérience. Je peux leur dire, sois forte, fais ça. Et je peux être là, je suis une oreille hein, pour des parents. Il y a des parents qui m'appellent, on peut faire 2 heures au téléphone, ça va pas, je dis parle. Parce qu'ils ont besoin de parler, ils ont personne à qui parler.
D'accord. Alors, dans votre intervention, vous avez abordé la question de l'éducation. Seuls 26% des enfants vivant avec un handicap en 2023 avaient accès à l'éducation en Côte d'Ivoire, selon Jean-François Basse, le représentant résident du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF en Côte d'Ivoire, l'a affirmé en novembre 2024, alors qu'il s'exprimait sur les défis liés à l'éducation des enfants en situation de handicap en Côte d'Ivoire. Ndia Nikes.
Oui, effectivement, lorsqu'on donne ces statistiques sur l'éducation des personnes handicapées, généralement, on parle beaucoup plus d'handicap handicap physique, en fait. Voilà, le handicap intellectuel, c'est toute autre chose. Voilà, donc, le système d'éducation inclusive en Côte d'Ivoire a été mis en place par rapport au handicap sensoriel, les sourds et les aveugles, en fait. Voilà, pour les enfants handicapés intellectuels, c'est encore plus difficile. C'est encore plus difficile parce que lorsqu'on fait l'éducation inclusive, il faut mettre tout un outil pour accompagner le système éducatif et les parents et l'école et tout ça, les adaptations pédagogiques et physiques à mettre en place. Mais ce n'est pas du tout évident. Ce n'est pas du tout évident. Et donc, quelques rares enfants handicapés intellectuels parviennent quand même avec l'appui de leurs parents. Mais comme la parent vient de le dire tout à l'heure, c'est coûteux. Parce que c'est le parent seul, en fait, qui donne à l'école tous les moyens qu'il faut pour que son enfant puisse aller à l'école. Si on l'accepte d'abord, il faut d'abord qu'on l'accepte d'abord dans l'école. Voilà. Et puis, beaucoup plus de parents se capacitent sur le système d'éducation spécialisé pour les enfants handicapés intellectuels. Voilà. Donc, c'est ce qui est plus en vogue ici en Côte d'Ivoire, l'éducation spécialisée par rapport pour les enfants handicapés intellectuels. Voilà. Donc, comme elle vient de le dire, c'est un peu honoré, c'est un peu cher. C'est pourquoi nous, à l'ONG Dignité Droits pour les enfants en Côte d'Ivoire, nous sommes un peu dans l'humanitaire, en fait. Donc, on essaie un peu du social, de sorte que les parents puissent avoir cette éducation-là à moins de coûts. À moins de coûts, ouais, mais c'est pas toujours facile. L'éducation inclusive, je reviens encore dessus, surtout pour les enfants handicapés intellectuels. Lorsque l'enfant a l'âge d'aller à l'école, son droit d'aller à l'école. Vous comprenez, son droit d'aller à l'école. Donc la première chose que le parent doit faire, c'est d'envoyer cet enfant à l'école. Voilà. Maintenant, si le système refuse, c'est maintenant que le parent doit chercher des voies alternatives. Voilà. Sinon, moi, je conseille toujours aux parents d'envoyer l'enfant d'abord à l'école, et si le système n'arrive pas à récupérer l'enfant, qu'elle ramène l'enfant maintenant dans un système d'éducation spécialisée. Voilà. Il n'y a pas de chance d'envoyer un enfant en éducation spécialisée. Il peut aller dans une école spécialisée à tout âge, en fait, en réalité. Bon, certaines écoles aussi ont le limite d'âge, comme chez nous. Voilà.
Limite d'âge de...
Bon, parce que nous,
quel âge?
À DDCI, on prend l'enfant à partir de 5 ans et à 17 ans, on doit libérer l'enfant parce que nous travaillons sur l'enfance en tant que telle. Parce qu'il n'y a pas de loi en Côte d'Ivoire qui dit que l'enfant intellectuel qui grandit physiologiquement, donc nous savons que l'âge mental ne correspond pas à son âge physiologique. Il n'y a pas de loi qui dit que bon, il faut faire pas des choses, en fait. Donc l'enfant à 17 ans, on le considère comme adulte déjà. Donc du coup, bon, nous sommes obligés de le libérer parce que notre groupe cible, ce sont les enfants. Voilà, donc chez nous, comme ça, il y a le limite d'âge. Donc bon, c'est en deux sens. Parce qu'il y a le limite d'âge aussi parce que si l'enfant n'a pas été bien pris en charge et qu'il a encore beaucoup de difficultés pour le prendre en charge, c'est un peu compliqué. Là, c'est devenu un peu adulte, en fait. Il faut vraiment une autre prise en charge un peu spéciale. Voilà, c'est un peu ça. Mm-hmm. Quand je revenais, en fait, sur l'éducation exclusive. En fait, l'éducation exclusive des enfants handicapés intellectuels, moi, ce que je préconise, en fait, c'est que l'enfant soit suivi d'abord. Et si l'enfant doit faire le CP1, par exemple, il faut que, par exemple, il y ait une prise en charge préalable qui donne à l'enfant d'avoir le niveau, plus ou moins. Donc, souvent, on va à l'école ici à 7 ans, mais l'enfant peut avoir le niveau CP1 à 8 ans, par exemple, parce que 8 ans, 9 ans, parce qu'il a un retard intellectuel. Donc, à ce moment, maintenant qu'il est plus efficace de mettre l'enfant dans un système inclusif. Parce qu'en ce moment, l'enfant peut plus ou moins suivre le rythme. Ouais, mais si, lorsqu'on met l'enfant à 6 ans comme les autres, au CP1, que l'âge mental est de 4 ans, 3 ans, il ne peut pas suivre. La maîtresse n'est pas habilitée à suivre cet enfant parce qu'elle a 30 enfants, 50 enfants dans la classe. Elle ne peut pas consacrer.
Mais est-ce qu'elle a reçu aussi la formation de base aussi?
Elle n'a pas non plus reçu la formation de base. Voilà. Donc tout ça fait que c'est un peu, ça échoue de plus souvent pour les enfants de cap intellectuel. Voilà.
D'accord. Alors, au CESE, vous accompagnez les enfants, mais également les parents?
Oui. Au CESE, nous avons mis en place l'association des parents qui est l'association des parents handicapés de Yopougon, qui sont basés en grande partie à Yopougon. Voilà. Et nous essayons de faire un peu la guidance parentale. Nous essayons de faire le groupe de parole. Pour cela, nous avons une assistante sociale et un psychologue et aussi le kiné qui aide à cela. Voilà. Donc, on essaie d'accompagner un peu les enfants pour que les parents arrivent à faire. Le problème du handicap avec les parents, c'est d'abord que à la naissance, les parents ne sont pas bien formés parce que, par exemple, lorsque l'enfant naît, il y a un tableau qu'on appelle le tableau d'Apgar. Le tableau d'Apgar, déjà, peut donner l'état de l'enfant. Si l'enfant n'a pas poussé le premier cri, il n'est pas arrivé avec un tonus assez consistant. C'est noté, en fait, dans le cadre de naissance de mère-enfant, c'est noté. Et avec la notation, on peut savoir que l'enfant a un problème déjà, dès la naissance. Vous voyez? On peut savoir, il y a possibilité de savoir.
Qui peut savoir, le corps médical ou la mère?
Le corps médical le sait. Mm-hmm. Il y a un deuxième problème qui se pose. Bon, la mère, elle peut ne pas savoir, mais le corps médical, on peut lui dire, en fait, pendant ses visites à la maternité, on peut lui dire que quand l'enfant va naître, voilà, on peut lui donner cette formation. Maintenant, le corps médical, le problème qui se pose, c'est l'annonce du handicap. Qui va annoncer à la mère qui vient de naître, qui est toute joyeuse, que l'enfant qui est né a un gros risque d'handicap intellectuel? Et qui ne pourra pas aller à l'école, ne pourra pas faire comme les autres, il ne pourra pas s'adapter comme les autres, qui va annoncer cette mauvaise nouvelle? Donc il y a un problème dans notre hôpital.
Excusez-moi, je vais m'adresser à Marie-Paul Niali de Almeida. Alors vous, il a parlé du tableau d'Apgar pour pouvoir orienter la mère ou le personnel médical quant à l'avenir de l'enfant sur le plan intellectuel. Est-ce que vous, votre attention a été attirée là-dessus ou?
Non, pas du tout. Hein. Moi, j'ai pas. Mon tableau était 10 sur 10. Hein. Tout était parfait. Je faisais mes rendez-vous parfaitement. C'est juste au moment de rentrer à l'école. Il n'a pas socialisé. Il ne parlait pas en classe. Il ne disait rien. Donc, je pense que l'équipe ou l'école n'avait pas de formation pour. Donc, il ne savait pas comment faire. Et ça, je vous parle d'une histoire. On est en 2010, comme je dis là. Donc, il n'y avait rien. Il n'y avait rien pour. Les gens ne connaissaient pas. Ils ne savaient pas ce que c'était. Les comprendre.
Et au niveau de la famille?
Au niveau de la famille, vous savez, on est en Afrique, mais bon, souvent aussi, on a l'impression qu'on est un peu en Europe. Hein. Chacun vit dans ses réalités. On n'a pas forcément envie de s'exposer à la famille. Hein. On reste chez nous. On vit dans la famille nucléaire. On reste là, confiné. On se dit, une chose est sûre, ils ne vous donneront pas de ressources pour vous aider. Ils ne vous diront que des choses, des conseils qui ne sont pas forcément avantageux pour vous. Parce que bon, ils vont vous dire, bon, écoute, ton enfant, envoie-le quelque part, envoie-le au village. En tout cas, vous avez de tous les conseils. Hein. Envoie-le au village.
Il y a certains même qui utilisent l'expression de raccompagner l'enfant.
Voilà.
On a eu à faire un reportage justement au CESE où on a eu quelques témoignages.
Oui, vous voyez ce genre de conseils-là. Comment on peut dire à une maman de raccompagner son enfant? C'est vrai que c'est difficile, mais donc c'est mieux de rester là. Et puis bon, on affronte ça toute seule. On cherche à gauche, à droite, on se réfère à Google, on avance et puis voilà.
D'accord. Alors, toujours parlons de la prise en charge. Au niveau du CESE, vous dites que vous avez des prix, on va dire des coûts humanitaires. Alors, comment ça se passe? Vous avez une équipe pluridisciplinaire?
Oui, bon, faut d'abord remercier l'État aussi qui nous envoie des fonctionnaires. Déjà, ça montre le coût. Nous avons aussi quelques bailleurs, quelques bailleurs, quelques donateurs au plan national. Il y a aussi beaucoup, pas mal de donateurs au plan national aussi qui sont sensibles à la cause des personnes, des enfants handicapés, donc ils nous viennent en aide. Et aussi l'association des parents qui se mobilisent. En fait, la petite histoire en fait, du CESE, c'est que le CESE, comme je dis, était un projet du BICE, du Coordination Cato de l'Enfance. Et le coût était pratiquement gratuit, en fait. Voilà, pratiquement gratuit. Et le BICE, devant se retirer, les parents eux-mêmes se sont mobilisés. C'est la petite histoire, en fait. Les parents se sont mobilisés. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Les Blancs nous ont aidés, ils s'en vont. Mais nos enfants vont parler à eux.
Est-ce qu'il faut laisser mourir le projet?
Voilà. Donc, c'est comme ça qu'ils ont, ils sont référés à M. Cocu, à l'époque, qui était directeur pays du BICE. Hein. Et qui a dit, bon, le BICE nous laisse un local au Toit Rouge. Et si vous avez des moyens, essayez de voir comment on peut aménager ce lieu pour que ce soit une école pour vos enfants. Et c'est comme ça que les parents eux-mêmes ont fixé le coût de la scolarité qu'ils pouvaient payer. Parce qu'on ne met pas le coût de la scolarité au CESE. Vous voyez, donc c'est depuis lors, nous sommes restés un peu dans cette image que nos parents ont fixée, essayant de trouver un peu des barrières, des donateurs à gauche, à droite pour soutenir l'œuvre en fait.
Mais est-ce que le coût de la scolarité vous permet de prendre un maximum d'enfants ou est-ce que vous, par faute de place, vous fermez la porte entre griffes?
En fait, par rapport aux autres centres, le CESE prend le plus en fait d'enfants.
Combien d'enfants par année?
Pour l'éveil, c'est autour de 80. Et il y a demande encore, mais bon, on ne peut pas, la capacité d'accueil aussi est limitée. Sinon, il y a la rééducation fonctionnelle, dont le coût est carrément 1000 francs par séance, voilà, pour la rééducation fonctionnelle des enfants. Et certaines activités, à la rééducation fonctionnelle, par exemple, les parents viennent, on les achète des médicaments neuroleptiques, ça c'est gratuit, ça coûte très cher les médicaments neuroleptiques. Et sans ça, l'enfant très bien intellectuel ne peut pas suivre. Voilà, à certains parents qu'on nous constate qu'ils ne peuvent pas se payer ces médicaments neuroleptiques-là, nous les payons, médicaments neuroleptiques. À l'époque même, on faisait des opérations chirurgicales pour Adon Orion et tout ça, pour pouvoir le permettre d'avancer. Voilà, bon, ben, c'est un peu difficile, mais bon, le coup, on essaie quand même de faire avec, quoi. On essaie de... Faut remercier aussi les éducateurs aussi, qui font vraiment du bénévolat. Ils ne leur donnent pas grand-chose, mais ils sont dévoués pour la cause des enfants handicapés. Et c'est ce qui nous permet de tenir le coup, en fait.
Virginie Cacoutier, tout à l'heure, a parlé de sensibiliser les parents, justement, pour leur permettre de vraiment comprendre la situation concernant leurs enfants. Vous, au niveau, on va aller avec Marie-Paul Gnali de Almeida, vous, au niveau de votre fondation, est-ce que vous avez des activités pour sensibiliser les parents, pour leur apprendre ce qu'il faut savoir et tout?
Oui, bien sûr, nous avons des activités. D'ailleurs, chaque mois, on organise des conférences avec des spécialistes. Les spécialistes viennent, on trouve un lieu et on invite les parents, on donne une thématique et puis chaque parent vient et il a un peu les tips, les conseils des spécialistes sur comment faire, parce qu'il n'y a pas de façon figée, hein. C'est pas écrit qu'il faut faire comme ci, comme ça. C'est selon l'expérience que tu vis. Si tu arrives à extérioriser, le spécialiste te dira, bon, réagis comme ça, fais comme ci. Et je pense que les meilleurs conseils viennent des spécialistes, donc c'est ce qu'on fait. Les éducateurs spécialisés font un travail remarquable parce que faut le dire, le paramédical en Côte d'Ivoire est privé. Ce qui est public, ce sont les éducateurs spécialisés. Donc ce sont les seuls qui font cet effort-là. D'accord. Quand je dis ils font cet effort, ils sont là pour ça, ils le font. Pourtant, lorsqu'on vous explique réellement ce qui se passe, c'est par exemple c'est le spécialiste par exemple l'orthophoniste, le psychomotricien, qui donne des instructions à l'éducateur spécialisé pour qu'il puisse aider l'enfant. Mais on n'a pas. Donc la chaîne est coupée. Quand tu quittes chez le pédopsychiatre, chez le pédiatre, tu vas chez l'éducateur spécialisé. Quand tu es dans le public. En Côte d'Ivoire, on a 8 complexes socio-éducatifs, mais quand vous voyez, tout le monde est focus sur autre chose. C'est tout un parcours entre le médecin, le neurologue, le pédopsychiatre, tout ce que vous avez comme médical. Et après, vous partez au paramédical. Après le paramédical, vous allez chez les éducateurs spécialisés pour faire vos rééducations aussi. Et vous pouvez même faire des rééducations avec le paramédical. Et tout ça doit être bien expliqué aux parents. C'est par faute de moyens, par faute de ressources, parce que effectivement, en Côte d'Ivoire, on n'a pas encore... On n'a pas de psychomotriciens formés, donc on ne peut pas avoir dans ces centres spécialisés-là des psychomotriciens, des orthophonistes. Donc on fait avec les moyens de base. Donc dans ce centre-là, par exemple, au complexe, il y a des enfants qui sont là-bas, qui suivent des rééducations. Donc c'est aux parents de ces enfants-là qu'on va venir parler.
et nous allons venir avec les spécialistes. Tous ces spécialistes-là, parce que puisqu'ils ne les côtoient pas, donc ils ne savent pas réellement c'est quoi la chaîne. Donc les spécialistes, ça vont venir. Il y aura des orthophonistes, des psychomotriciens, des ergothérapeutes, tout ce que vous avez. Même des diététiciens qui viendront pour parler aux parents. Et les enfants feront des activités extra derrière, comme de l'équitation. Parce que l'équitation a montrer ses preuves. Mais on est tellement en Afrique et bloqué sur certaines choses qu'on a l'impression que ce sont des choses de riches. Mais ce sont des choses qui aident nos enfants. Et il faut donner accès à tous les enfants, permettre à tout le monde d'avoir accès.
Mais il faut dire qu'aussi, ici, on n'a pas un cheval à portée de main aussi.
Mais si, par contre, si vous cherchez, vous en aurez sur la route de Bassam, il y a des centres équestres. Il y a une fédération ivoirienne d'équitation. Et c'est la fédération qui va nous accompagner le mercredi. Vous voyez, il y a tellement de choses. Mais comme on ne se renseigne pas et puis on se bloque sur le fait que, bon, ça coûte cher, c'est ceci. Mais à un moment donné, oui, ça coûte cher peut-être, mais est-ce que tu es venu expliquer ta situation? Parce que là, on est obligé de faire au cas par cas, parce qu'il n'y a rien qui est figé. Donc, si on te dit que ça peut faire quelque chose, voilà. Donc, on va mettre ça en place au complexe, et puis on verra comment vraiment soutenir les parents qui ont réellement besoin. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas faire du porte-à-porte pour aller chercher les parents à la maison. Si tu as un besoin particulier, si tu as cocody, ben, écoute, tu viens, tu assistes. Et on va soutenir ceux qui seront là. On ne peut pas faire du porte-à-porte, c'est difficile. Hein.
Mais il y a des parents aussi qui cachent leurs enfants par rapport aux différents handicaps.
Oui, mais on est au 21e siècle. On ne peut plus s'asseoir
oui,
dessus.
Oui, vous voulez réagir là-dessus?
Oui, là-dessus, effectivement, c'est dû au préjugé que nous avons sur le handicap. Vous voyez, comme le disait Marie-Paul tout à l'heure, le handicap est une malédiction. Souvent, les enfants, surtout les enfants IMC qui sont atteints d'insuffisance motrice cérébrale, sont qualifiés d'enfants serpents. C'est eux que très souvent qu'on demande d'accompagner et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'a le regard des autres et tout ça? Donc, le parent est un peu honteux. Voilà. Il va cacher son enfant pour ne pas que les autres le regardent et puis le voient différemment et qu'ils se sentent incapables d'avoir manqué de faire un enfant normal, dit normal. Vous voyez? Donc, tout ça, c'est pourquoi chez nous, l'un des premiers éléments que nous faisons, c'est de permettre aux parents de faire le deuil du handicap. Comme Marie-Paul l'a si bien fait, tu fais le deuil du handicap, tu es libre de parler du handicap, libre de parler de ton enfant, libre de le montrer, libre de l'entretenir, parce que tu n'as pas honte du regard de
d'assister d'autres parents même qui sont dans le besoin.
Donc,
quand
le
même
deuil du handicap, c'est un élément c'est un déclencheur dans l'engagement des parents dans la prise en charge du handicap de l'enfant. Nous, c'est le moment, dès que vous franchissez le portail du CESE, vous êtes accueilli par l'assistance sociale, le psychologue et tout ça qui vont vous aider à faire le deuil du handicap. Le premier traitement que nous donnons, c'est l'écoute. L'écoute au monde, ça va permettre aux parents de ressasser, de refaire l'histoire de sa grossesse, et à quel moment elle a senti que l'enfant avait un handicap et tout ça. Et comment est-ce qu'elle s'est prise pour arriver là où CESE est aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle attend. Tout ça, déjà, le fait d'extérioriser, ça guérit un peu le parent et déjà qu'il peut s'apprêter à faire le deuil du handicap. Et lorsqu'il arrive au CESE, il se rend compte qu'il n'est pas seul dans cette situation. Le parent se rend compte qu'il n'est pas seul dans cette situation. Et déjà, ça déclenche un peu, voilà, ça déclenche un peu, en fait, voilà, le parent se sent un peu plus à l'aise parce qu'il sait qu'il n'est plus seul. Et l'association, c'est là pour les aider. Voilà, donc c'est un peu ça, quoi. C'est un des éléments qui fait que les parents cachent l'enfant, en fait. Mais il faut sensibiliser. Mais aujourd'hui quand même, nous sommes en 2025, de moins en moins quand même les parents. On voit de plus en plus, je me dis, les parents se font sortir les enfants.
Vous estimez qu'aujourd'hui, il y a moins de... Enfin, qu'il y a un changement de mentalité.
Oui, quand même, ça évolue. La mentalité a beaucoup évolué quand même par rapport à ça. Mais ça existe toujours. Il y a des poches de résistance. Ça, il faut toujours continuer de sensibiliser. C'est pourquoi nous faisons les audiences pour rien, les sensibilisations communautaires, tout ça, pour choses. C'est pourquoi c'est vraiment la prise en charge. Le handicap, ce n'est pas vraiment l'enfant que nous voyons, mais aussi les parents, la communauté et tout ça. Ils font beaucoup de choses quoi, pour que la communauté prenne conscience que parmi eux, il y a des enfants qui sont différents et qu'il faut les accompagner.
D'accord. Alors, si vous aviez un mot de fin, Marie-Paul Niali de Almeida.
Un mot de fin. D'accord. Nous allons continuer à sensibiliser les parents. Et nous disons aux parents qu'ils ne sont pas seuls, qui ne sont pas seuls, qui a des voix pour les entendre, même si leur famille ne peuvent pas leur donner des conseils ou ne veulent pas leur donner des conseils, ils peuvent se retourner sur nous. Nous sommes une épaule pour eux. Nous sommes là. Ils peuvent nous contacter. Je pense que je vais laisser le numéro de contact, le contact de la Fondation. Nous sommes disponibles au 07 02 980 303. 07 02 980 303. Vraiment, c'est une ligne d'écoute. Si les parents ont envie de parler, d'extérioriser, vous pouvez composer ce numéro-là. Vous aurez quelqu'un au bout du fil pour vous écouter.
On va reprendre le numéro.
C'est le 07 02 980 303.
D'accord, je vous remercie.
Merci à vous.
Dianikès.
Ok, moi, mon appel, ça va l'entendre le premier d'abord de l'État. Il y a une loi qui a été prise, dite loi d'orientation en faveur des personnes handicapées en 1998. Il a manqué un décret d'application, en fait, pour que c'est une loi très riche, une très belle loi, qui vraiment, si est appliquée, ça va soulager les parents et les personnes en situation de handicap. Mais on ne peut pas tout attendre de l'État. L'État a tellement de choses à faire. Bon, on va le tolérer un peu. Mais je veux dire que s'il y a aussi des gens de bonne volonté qui sentent la cause du handicap et qui veulent aider, voilà, il y a les structures privées où les parents sont vraiment démunis, comme le centre des centres d'éveil de situation d'enfants handicapés, et que dont les parents ont besoin d'aide, de parrainage et tout ça, des enfants. Et tout ça. Là, il y a une dame qui nous aide cette année avec 7 enfants qu'elle parraine. Et on a besoin de ces gens, c'est qu'on peut aider les parents qui sont vraiment démunis parce que la chose coûte cher et il faut vraiment, si une personne a le cœur pour le handicap, pour la cause du handicap, qui puisse aider les enfants, nous sommes là, notre porte est ouverte, il vient de par la porte du CESE. On va l'accueillir, nous allons mieux l'orienter pour qu'il puisse aider les enfants.
D'accord, je vous remercie, India Nikès. Rappelons que vous êtes assistant de programme enfants handicapés, par ailleurs responsable du centre d'éveil et de stimulation des enfants handicapés, CESE, qui est géré par l'ONG DDECI, Dignité et Droits pour les enfants de Côte d'Ivoire. Et sur le plateau également, nous étions avec Marie-Paul Niali de Almeida, qui est la présidente de la fondation Dis-moi qui tu es. Vous avez également témoigné en tant que parent. Et merci aussi à Virginie Cacoutier, qui est ergothérapeute. Rappelons qu'aujourd'hui, nous avons parlé de la réalité des enfants en situation de handicap en Côte d'Ivoire. Encore merci d'être venu.
Merci, merci à vous.
Je vous en prie.
Sujet de discussion.
Présentation, Sonia Nzian.